Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. La décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, un message particulièrement difficile pour l'Afrique, continent parmi les plus impactés par le réchauffement climatique. Les menaces américaines sur le budget de l'ONU et principalement les opérations de maintien de la paix sont autant d'interrogations supplémentaires pour le continent. Regard sur l'Afrique et l'ONU avec nos invités. Alexandra Novoselov, chercheur invité au Centre pour la coopération internationale de l'Université de New York, également chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris 2 Panthéon-Assas. Alexandra Novoselov a dirigé l'ouvrage Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance dans la collection Biblis des éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marc de la Sablière, ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac entre 2000 et 2002, ancien ambassadeur et représentant de la France au Conseil de sécurité entre 2002 et 2007, enseignant à Sciences Po, en charge du séminaire sur le Conseil de sécurité. Votre dernier ouvrage, Indispensable ONU, paru dans la collection Tribune du Monde des éditions Plomb. Bonjour.
Bonjour.
La décision donc des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, Jean-Marc de la Sablière, c'est un message d'une certaine manière catastrophique. En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Afrique, continent, je le disais, parmi les plus impactés par le réchauffement climatique.
Oui, c'est certainement pas une bonne nouvelle pour le monde et pas une bonne nouvelle pour l'Afrique en particulier. Dans l'accord de Paris, il y a non seulement, si vous voulez, des engagements qui sont pris par les États, il y a des rendez-vous pour vérifier s'ils ont été respectés et pour se fixer des ambitions supérieures, mais il y a aussi la question de l'aide aux pays les plus affectés et les plus pauvres. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre des engagements, ils doivent pouvoir transformer également leur économie, mais il faut les aider. Et beaucoup de pays africains sont dans cette situation. Et là, parmi ceux qui aident, il y a bien sûr des gros contributeurs, et donc les États-Unis. Et donc la question va se poser, en tous les cas dans les toutes prochaines années, et j'espère que les États-Unis reviendront sur cette décision avec le nouveau président, de la contribution ou de la compensation de la contribution américaine. C'est pas effectivement une bonne nouvelle pour l'Afrique, mais d'une manière générale, au-delà, l'Afrique a besoin de l'ONU.
Alors, au-delà de cette mauvaise nouvelle sur le climat, il y en a d'autres. Hein. La décision annoncée des États-Unis de réduire le budget des Nations Unies, avec un impact direct sur les opérations de maintien de la paix, donc révision à la baisse du nombre de casques bleus, alors que des réductions ont déjà cours, comme en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut parler de crise du maintien de la paix aux Nations Unies? Alexandra Novoselov.
Alors bon, on parle de crise tous les 10 ans ou presque pour ce qui concerne le maintien de la paix. Bon, d'abord la baisse de la contribution américaine n'est pas du tout actée pour le moment. Il y a de toute façon d'abord il y a l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire qui a fermé cette année, donc ça baisse mécaniquement le budget. Il y a une diminution et une fermeture prévue pour l'année prochaine de la mission au Liberia et puis également de la mission en Haïti. Donc déjà, il va y avoir une baisse du budget des opérations de maintien de la paix et du nombre de casques bleus. Alors ça a été poussé, bien entendu, par les États-Unis. Et ce qui est un peu drôle, c'est que les États-Unis étaient ceux qui, auparavant, étaient les meilleurs défenseurs du maintien des opérations au Liberia et en Haïti. Mais bon... Donc on est en crise, oui et non, ça dépendra de la baisse qu'exigera in fine les États-Unis, mais on s'est aperçu quand même, et notamment sur la négociation pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO, donc la mission de stabilisation à l'est du Congo, que bah, finalement bon, ils voulaient des baisses drastiques, mais qu'au cours de la négociation ils ont compris qu'on ne pouvait pas comme ça enlever des milliers de casques bleus à une opération qui marche bien, qui a besoin besoin toujours d'être déployés au Congo.
Alors, pour mémoire, pour nos auditeurs, ce sont actuellement pas moins de, je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, 120 000 casques bleus qui sont déployés dans le monde dans 16 missions, pour la plupart en Afrique. Vous évoquez Haïti, on est sur le continent américain, donc un continent où les défis s'annoncent de taille. C'est un Français, à nouveau, qui est chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. C'est Jean-Pierre Lacroix qui a succédé récemment à Monsieur Latsous. Jean-Marc de la Sablière, quels sont, d'après vous, les dossiers les plus brûlants en matière d'opérations de maintien de la paix sur le continent africain ?
Quand on regarde ces opérations, on constate qu'il y en a certaines qui marchent. Je crois qu'il est important, ce que vient de dire Alexandra, je crois, est important, c'est qu'on va donc clôturer celle sur la Côte d'Ivoire qui a été finalement un succès, clôturer celle sur...
C'était pas la plus compliquée non plus.
Non plus, mais elle a été compliquée à un moment donné.
Elle a été compliquée.
On va clôturer celle du Liberia. Et donc, on va peut-être trouver les financements, une partie en tous les cas des économies qui sont demandées et qui auraient dû être faites d'ailleurs, je pense, dans ce domaine. Pas au niveau que disent les Américains. Alors, quand vous regardez les dossiers, vous voyez quoi ? Vous voyez, pour nous, Français, notamment, vous avez l'opération de la MINUSCA en RCA.
République de Centrafrique.
Vous avez la MINUSMA au Mali, hein, qui est une opération compliquée, qui est une opération difficile. Hein, je veux dire, les deux sont difficiles, d'ailleurs. Vous avez l'opération au Soudan du Sud, qui pose des problèmes. Celle du Darfour est très importante, c'est une opération hybride avec l'Union africaine. Et il y a aussi celle dont on vient de parler, qui dure maintenant depuis 17 ans à peu près, ou 16 ou 17 ans, qui est celle qui a été déployée en République démocratique du Congo, qui est la MONUSCO. Mais donc voilà, pour s'en tenir, si vous voulez, à l'essentiel, il y a des grosses opérations de maintien de la paix en Afrique. On peut les regarder les unes et les autres et dire « mais ça ne marche pas aussi bien que ça devrait marcher ». Ce qui est certain, c'est que s'il n'y avait pas d'opération de maintien de la paix dans ces pays, ce serait le chaos.
Alexandra Novoselova.
Oui, bien sûr. Ce serait le chaos. Les Nations Unies, de faire ce qu'ils peuvent dans ces cas que vient de citer l'ambassadeur, qui ont tous leur défis. Si on prend par exemple le Soudan du Sud, c'est vrai que si les Nations Unies n'avaient pas été là pour accueillir dans leur camp un certain nombre de déplacés, on aurait beaucoup plus de morts que ce qui a été. Et ils continuent d'accueillir dans les camps les déplacés. Chaque opération a sa spécificité. C'est vrai que ce sont d'énormes opérations qui, bon, par exemple, pour le cas de la MONUSCO, a plus de 16 000 hommes déployés sur le terrain. Mais quand on regarde 16 000 hommes, vous voyez, au regard d'un pays qui a la taille de l'Europe continentale, qui n'a pas de route, c'est dérisoire. On a déployé 50 000 hommes au Kosovo. Donc, il faut voir aussi les défis logistiques énormes auxquels elles font face. Et c'est vrai que récemment, il y a eu le porte-parole des Nations Unies qui a dit très clairement, à des questions, encore une fois, sur la réduction du budget, etc. Il a dit, mais à un moment donné, il faut bien vous rendre compte qu'on ne pourra plus faire. Parce que déjà ces opérations sont faites un peu à l'économie, mais si vous baissez encore plus, on n'arrivera plus à faire. Le budget des opérations de maintien de la paix, je le rappelle, 8 milliards de dollars par an, c'est 0,4% des dépenses militaires mondiales. Donc c'est rien du tout. C'est pour ça que le président Trump disait que c'était peanuts, c'était rien du tout.
Jean-Marc de la Sablière.
Oui, bah, je veux rebondir sur la question de la diminution. Quand on a parlé, si on baisse davantage les moyens, les effectifs. Il y a également le problème de la qualité. Je suis entièrement d'accord sur l'histoire de la baisse. Le problème de la qualité. Et il y a des efforts qui sont des efforts constants. Quand Alexandra disait tous les 10 ans, c'est vrai, hein, il y a... L'une des bonnes nouvelles, c'est que malgré les échecs, les difficultés, progressivement, il y a constamment, je veux dire, tous les X années, des rapports et des décisions qui sont prises sur la base de ces rapports. Mmh. Donc, il y a un suivi, des améliorations qui se font, des adaptations qui se font. Bon. Il y a deux domaines qui, je crois, sont des domaines, bon, les unes après les autres, mais il y a des domaines qui sont, il y a des sujets qui sont des sujets qui couvrent l'ensemble, je pense, des forces. Il y a ce sujet de la robustesse de la force et de la robustesse des opérations de maintien de la paix et de la capacité à utiliser la force dans certaines circonstances. Et là, je pense que des progrès sont faits. Et il y a un autre domaine qui a été mis en lumière particulièrement par ce rapport qui a été circulé et déposé il y a maintenant un an et demi à peu près, qui est le rapport Ramos-Horta, qui dit, je crois très justement, qu'il faut absolument que ces opérations s'inscrivent dans des perspectives de règlement politique. Autrement dit, l'objectif, c'est la solution politique. Oui. Là où les Nations Unies peuvent se faire piéger et se font souvent piéger, c'est lorsqu'il y a une accélération, quand on voit qu'une situation est une situation catastrophique, donc on déploie des forces sans un bon accord politique, et ensuite, ces forces sont un peu piégées puisqu'il n'y a pas d'accord politique entre les forces sont faites normalement, les opérations de maintien de la paix, pour accompagner, n'est-ce pas, un règlement politique, des armées, créer un État.
Donc des exigences parallèles, c'est cela.
Alors il faut qu'il y ait des perspectives de règlement politique. Et ce que nous constatons actuellement, par exemple, au Mali, c'est que s'il y a un règlement politique, il est mal appliqué. Ce que nous constatons actuellement au Soudan du Sud, c'est qu'il n'y a plus de véritable règlement politique. Et donc, on a besoin, si vous voulez, à nouveau, c'est ce que disait le rapport Ramos-Horta, de remettre au cœur des opérations de maintien de la paix la question du règlement politique.
Alexandra Novoselov.
Oui, je crois que c'est la clé du succès des opérations de maintien de la paix, c'est d'inscrire ces opérations dans un cadre politique et ensuite que chacun y mette du leur pour que ce cadre politique soit mis en œuvre pour obliger les parties au conflit à aller à la table des négociations. Tout ça, c'est pas simplement en votant une résolution, c'est derrière, en faisant pression, une pression constante, notamment de la part des puissances du Conseil de sécurité, mais également des puissances régionales. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a eu tendance à penser que, ben, on déployait des casques bleus et ils allaient faire le travail, que ça allait se passer comme ça. Pas du tout. Les casques bleus ne peuvent pas agir s'ils ne sont pas en appui d'un processus politique. Parce que, vous voyez les chiffres, 16 000 hommes à l'est du Congo, c'est rien du tout. Donc, ils n'auront jamais ni la supériorité des armes, ni la supériorité politique, ni la connaissance du terrain pour engager par eux-mêmes un processus politique que finalement les partis ne voudraient pas vraiment avoir s'il n'y avait pas ces pressions-là. Donc je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre et qui est en jeu dans ces opérations de maintien de la paix, et que tant qu'on enverra des casques bleus à défaut de cadre politique, on aura des échecs continus, et tous les 10 ans, on parlera d'une crise du maintien de la paix.
Alors, est-ce que l'accord cadre qui a été signé en avril dernier, renforçant la collaboration entre l'ONU et l'Union africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité, vous semble aller dans le sens de ce que vous évoquez l'un et l'autre en termes d'appui d'un processus politique, Jean-Marc de la Sablière?
Moi, j'ai toujours été un ferme partisan d'une coopération entre l'ONU et l'Union africaine, l'organisation régionale, mais plus particulièrement l'Union africaine. Je pense que les deux organisations sont complémentaires. Alors, la charte le prévoit déjà, en disant d'ailleurs, en donnant la prééminence aux Nations Unies, qui doit autoriser les opérations qui sont menées à l'échelon régional. Quand vous constatez ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, par exemple, vous voyez très bien que l'ONU a beaucoup de mal à agir dans l'urgence. Mais beaucoup de temps, pour faire Et qu'on fait pour générer des forces.
Est-ce que c'est son rôle d'ailleurs d'agir dans l'urgence?
Quand elle crée une opération de maintien de la paix, il faut trouver les contributeurs, c'est assez long, n'est-ce pas? Donc, on constate que dans ce domaine, l'Union africaine a une capacité, dès lors qu'elle est soutenue, n'est-ce pas? Et que, sur le plan des moyens, n'est-ce pas? À agir assez vite. Mais l'Union africaine n'a pas une capacité de rester de manière durable sur le terrain et en plus, elle n'a pas non plus la capacité qu'ont les Nations Unies de régler, si vous voulez, d'avoir un agenda qui soit à la fois un agenda de surveillance d'un cessez-le-feu, mais en même temps de créer les conditions d'une paix durable en développant une nouvelle armée, la police, une justice, l'état de droit, etc. Et donc ça, les Nations Unies peuvent le faire. Donc il y a, n'est-ce pas, une complémentarité. Alors, il y a eu des heurts dans le passé. Il faut passer entre les deux organisations il faut passer là-dessus. C'est une complémentarité. Et je constate qu'actuellement, on travaille dans ce sens, n'est-ce pas, dans certaines situations, avec une approche qui doit être, je pense, il ne faut pas s'attacher à un seul modèle, qui doit être très flexible. Dans certaines circonstances, eh bien, l'ONU ne va pas intervenir elle-même, mais elle va aider l'Union africaine. C'est ce qui se passe en Somalie. Dans d'autres circonstances, ce n'est pas très heureux, mais ça a été le cas au Darfour, on fait une opération hybride, n'est-ce pas? Je ne trouve pas que ça a été la meilleure solution, mais elle avait été à l'époque, c'était la seule. Dans d'autres cas, on va transformer en force de maintien de la paix des forces qui étaient des forces africaines. C'est ce qui était là avec l'aide d'un pays comme la France, par exemple. C'est ce qui s'est passé au Mali ou c'est ce qui s'est passé en RCA. Donc il faut avoir une approche extrêmement pragmatique, extrêmement flexible. Il faut que ça s'intègre toujours dans le cadre d'un règlement politique et il faut rechercher la complémentarité. Donc plus on peut aller, pour revenir à votre question, dans le sens de la coopération, je trouve que ces accords cadres, vont dans le bon sens. Mais encore une fois, aux Nations Unies, et dans ces cas-là, je crois toujours que chaque cas est différent des autres. C'est toujours au cas par cas.
Alexandre Navratilov. Je suis entièrement d'accord qu'on est entre l'ONU et l'UA avec des organisations qui sont complémentaires. Je crois que ce qui a pêché ces dernières années, pour revenir à la question du processus de paix, qui doivent être le cadre de l'action des casques bleus, ce qui a souvent pêché dans ces différents terrains de crise, c'est la coopération politique entre l'UA et l'ONU, souvent l'UA adoptant des positions différentes, politiques différentes de l'ONU. Et un processus politique réussi dans ces pays-là, sur le continent africain, est un processus dans lequel l'Union africaine a été pleinement impliquée. Un dialogue a été établi entre cette institution, les pays concernés de la région, le Conseil de sécurité et puis le secrétariat des Nations Unies, etc. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait retrouver pour ne pas que finalement ce qui se passe un peu au Soudan du Sud, où vous avez un processus de paix qui a été politique, qui a été complètement délégué à la sous-région, et dans lequel, finalement, les Nations Unies attendent que la sous-région arrive à un résultat. Or, il y a aussi des intérêts, et c'est là où l'ONU a aussi une valeur ajoutée, c'est que elle est plus distante, bien entendu, de ces terrains de crise, et elle a des intérêts qui sont moins directs et qu'elle peut faire l'intermédiaire et le conciliateur. Donc c'est cette coopération plus intime pour un dialogue politique entre l'Union africaine et les Nations Unies qui, à mon avis, doit être poursuivie.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Alexandra Novoselov et Jean-Marc de la Sablière dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'ONU et l'Afrique. Nous retrouvons nos invités. Alexandra Novoselov, chercheur invité au Centre pour la coopération internationale de l'Université de New York, également chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris 2 Panthéon-Assas. Alexandra Novoselov qui a dirigé l'ouvrage Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance dans la collection Biblis des éditions du CNRS. C'est Jean-Marc de la Sablière, ancien conseiller du président Jacques Chirac entre 2000 et 2002, ancien ambassadeur et représentant de la France au Conseil de sécurité, enseignant à Sciences Po en charge du séminaire sur le Conseil de sécurité, son dernier ouvrage, Indispensable ONU, paru dans la collection Tribune du Monde des éditions Plomb. Jean-Marc de la Sablière, on évoquait les missions de maintien de la paix. Je rappelle qu'il y en a 16 actuellement à travers le monde, pour la plupart en Afrique. Qu'est-ce qui fait qu'une opération de maintien de la paix marche ou ne marche pas, Jean-Marc de la Sablière ?
Alors je pense qu'il faut, et je reviens sur ce point, je crois qu'on l'a déjà évoqué, un bon accord de paix. Vous avez besoin aussi de l'unité des principaux acteurs. Ça veut dire du Conseil de sécurité, des principales puissances au Conseil de sécurité, des puissances régionales. Quand on traitait les questions de Côte d'Ivoire, eh bien la France, par exemple, qui était leader dans ces domaines, elle travaillait de près avec les pays de la région, avec le Nigeria, avec le Ghana. On a besoin, deuxièmement, donc je disais, de l'unité de la communauté nationale. On a besoin que le secrétaire général et le Conseil de sécurité travaillent très bien ensemble. Quand ils ont mal travaillé ensemble, ça s'est mal passé. L'affaire du Rwanda, par exemple. Et puis, moi, je constate que lorsqu'il n'y a pas de leadership, on a besoin qu'il y ait un leadership, quelqu'un qui soit reconnu par l'ensemble de la communauté internationale, par les principaux acteurs qui prennent une responsabilité particulière, comme la France l'avait eu sur la Côte d'Ivoire. Alors ce leadership, il peut être exercé par le secrétaire général, il peut être exercé par l'Union africaine, mais on a besoin d'un accord, de quelqu'un qui tire et de l'unité de la communauté internationale.
Alexandre Novoselov.
Entièrement d'accord avec ce que vient de dire l'ambassadeur. À cela, je rajoute qu'il faut que une opération de maintien de la paix évolue dans un environnement où on empêche les armes de circuler, donc il faut un embargo. Il faut éventuellement des sanctions, parce qu'il faut maintenir la pression sur les acteurs qui ont tendance souvent à s'éloigner du processus de paix, du processus politique. Et puis, il faut un consensus entre le Conseil de sécurité, le secrétariat et les contributeurs de troupes, ce qu'on appelle dans le jargon onusien la coopération triangulaire. Si cette coopération ne se fait pas, ça marche mal. Et cette coopération, elle doit se faire à tous les stades de ces opérations, aussi bien dans la phase de décision, de prise de décision, de travail de la résolution. Il faut que le Conseil de sécurité puisse dire aux contributeurs de troupes, voilà ce qu'on envisage. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Voilà le niveau de risque qu'on voudrait que vous preniez. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis aussi dans la mise en œuvre. Une opération marche quand il y a un consensus sur la manière de conduire les opérations de maintien de la paix. Il y a un dernier point que je voulais souligner, c'était que quand on parle de pression sur les parties au conflit, de manière régulière, donc une opération de maintien de la paix est renouvelée ou est mise sur la table du Conseil de sécurité pour tous les 3 mois, on regarde comment ça se passe. Et là, il y a l'État, il y a en général le ministre des Affaires étrangères de l'État en question, du Congo, de la Côte d'Ivoire, etc., qui viennent plancher devant le Conseil de sécurité en disant voilà comment ça se passe, etc. Je crois que c'est une occasion pour le Conseil de sécurité de dire dans les couloirs quelques vérités à ces États qui auraient dévié de la feuille de route qu'aurait établie le Conseil de sécurité.
Alors justement, pour aller plus loin, vous évoquez l'appui stratégique, embargo sur les armes, etc., l'appui politique. J'ai cette question, je me tourne vers vous, Jean-Marc de la Sablière. Finalement, est-ce qu'il faut continuer à déployer des troupes de maintien de la paix dans des zones où l'ONU n'est pas la bienvenue? Je pense au Darfour, au Soudan du Sud.
Moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut déployer des forces dès lors que vous avez un accord qui soit un bon accord, n'est-ce pas? Alors, est-ce que on est confronté parfois à un sujet très compliqué? C'est, il n'y a pas d'accord du tout, ou bien il y a un accord qui est un mauvais accord. Il y a une crainte très grande de massacre, de situations qui puissent déraper dangereusement. Et vous avez, à ce moment-là, des acteurs ou de la région ou au Conseil de sécurité qui disent qu'il faut y aller. Mmh. Il faut y aller parce que ça va être épouvantable. Et au Sud-Soudan, les Américains ont joué dans le passé, joué un peu ce rôle. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut quand même... Il ne faut jamais dire « on ne va pas le faire », parce que quelquefois, je veux dire, on est soumis à des pressions qui sont des pressions très fortes, par crainte, si vous voulez, des dérapages sur place. Mais il faut quand même toujours essayer d'avoir, au départ, un accord. Parce que sans ça, c'est pas seulement l'Afrique. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de la Bosnie, c'était l'absence d'accord politique aussi qu'on a eu en Bosnie. Donc, voilà, il faut être pragmatique. Il faut jamais dire jamais. Mais voilà, je pense, moi, qu'il faut essayer d'avoir un accord politique. Alors, pour revenir à l'affaire du Darfour, cette affaire du Darfour est intéressante parce que c'est une opération hybride. ONU, Union africaine. Alors, a priori, on pourrait dire, ah ben voilà, c'est formidable.
Condition pour que ça marche au mieux.
Eh bien... Lorsque nous avons, moi j'étais au Conseil de sécurité à l'époque, dans les années 2000, lancé cette opération, nous l'avons fait tout en sachant que ça poserait des tas de problèmes. Il n'y avait pas d'autre possibilité parce que les autorités soudanaises ne voulaient pas d'une force des Nations Unies et que l'Union africaine qui était présente sur place était totalement épuisée. Donc elle n'avait pas la capacité. Je suivais, il y avait les attaques des Janjaweed, vous vous rappelez, des situations de massacre, on parlait de génocide, etc. Et donc, finalement, il y a eu un espèce d'accord politique, pas une espèce, un accord politique, pour dire on va faire une opération hybride. Mais c'est très compliqué, les opérations hybrides, parce que vous avez les doubles tutelles, et vous avez des cultures qui sont des cultures différentes, donc vous avez des lenteurs, et puis vous avez la capacité pour les autorités du pays qui sont sur place de jouer de l'un contre l'autre. Et donc, il faut essayer d'éviter ces opérations.
Alexandre Novoselov.
Oui, je crois que le problème qui se pose, c'est, bon, en général, on a un accord plus ou moins bien ficelé au départ. Donc, on envoie une opération. Alors, c'était pas le cas pour ni le Mali, ni la Centrafrique. Et puis après, on envoie des casques bleus et ils se retrouvent, comme c'est le cas aujourd'hui au Sud-Soudan, où la situation change dramatiquement. Et on se retrouve avec des casques bleus qui sont piégés. Et la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on enlève les casques bleus parce que le gouvernement ne donne plus son accord à cette opération, en réalité? Ou est-ce qu'on les laisse au risque... Donc, on les enlève au risque de massacre et on les laisse avec une incapacité à vraiment gérer la situation et avec un simple rôle humanitaire, en fait. Donc, c'est là où il y a pas de bonne solution. Aujourd'hui, par exemple, sur le Darfour, on est vraiment, il y a une réflexion qui se fait à New York sur une diminution drastique de l'opération au Darfour. On était jusqu'à plus de 20 000 hommes, au Darfour. Mais il y a des voix qui s'élèvent en disant, bah, si vous diminuez drastiquement, bah, l'opération elle pourra pas venir en aide aux réfugiés ou aux déplacés qui sont ici et là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va, faute d'accord politique, on conduit les Nations Unies vers un rôle, y compris les casques bleus, vers un rôle purement humanitaire, qui effectivement n'est pas satisfaisant pour personne, mais c'est mieux que rien parce que ça sauve quand même des vies.
Jean-Marc de la Sablière, qu'est-ce que l'on sait du programme pour l'Afrique du nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres?
Je pense, si vous voulez, que si j'arrive à décrypter un peu ce qui se passe ou ce qu'est la politique du secrétaire général, je le dis tout en ayant à l'esprit le fait qu'il est là depuis très peu de temps, donc il installe ses équipes, il a voyagé, et donc il serait, je crois, assez injuste de porter un jugement au bout de quelques mois, même si parfois on peut avoir des interrogations au bout de ces 5 mois maintenant sur un certain nombre de lignes de force, n'est-ce pas, de son action. Je pense qu'il est certainement intéressé par les questions africaines. Il l'a montré. N'oublions pas non plus qu'il a été chef de gouvernement d'un pays qui a des liens avec l'Afrique, qui est le Portugal. Il a été également en charge pendant 10 ans de du Haut Commissariat aux réfugiés, et Dieu sait qu'il y a eu des crises et des réfugiés en Afrique, donc il y a certainement une sensibilité assez grande. Il est allé à Addis Abeba pour cette réunion de
le sommet de l'Union africaine.
Le sommet de l'Union africaine. Donc je crois que on mesure, si vous voulez, que ça va faire partie ou que ça va être une priorité pour lui. Et que il est également intéressé, si j'en juge par un rapport, même s'il avait été préparé autrefois, sa diffusion s'est faite sous son timbre, par la question de la coopération entre l'Union africaine et l'ONU. Donc voilà, moi j'ai bon espoir, si vous voulez, qu'il s'investisse beaucoup sur les questions africaines, mais il faut maintenant lui laisser un peu de temps et voir ce qui va se passer.
Sur l'Afrique, justement. Donc, alors, les Africains se plaignent régulièrement d'avoir une voix qui est souvent ignorée. Où se situe la réalité par rapport à cela? Et ma deuxième question, c'est la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité. Là aussi, le continent se plaint de sa sous-représentation. Il y a 15 membres au total. Les pays africains, Angola, Égypte, Sénégal, siègent comme membres non permanent. Jean-Marc de la Sablière, un commentaire.
Alors moi, je pense qu'il y a un paradoxe dans cette affaire. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé en 2005, ça veut dire à un moment, la dernière fois, je pense, où, enfin, il y en a eu deux d'ailleurs en réalité, où on a véritablement essayé de modifier la composition du Conseil de sécurité, à la fois en augmentant le nombre de permanents et le nombre de non-permanents. Cette réforme, qui était pratiquement bouclée, qui était menée par ce qu'on appelle le G4, c'est-à-dire les puissances, quatre des puissances qui voulaient un poste de permanent, ça veut dire l'Allemagne,
l'Inde,
le Japon, l'Inde et le Brésil. Un poste qui aurait été un poste sans droit de veto, parce que ça n'aurait jamais marché, ça n'aurait jamais été ratifié par, en tous les cas, certains des permanents. Ils étaient tout près d'un lancement de cette affaire. Ils avaient 100 voix, sans compter l'Afrique. L'Afrique a 154 membres, je crois. Et il leur fallait au total 128 voix pour avoir la possibilité de lancer cette réforme. 128, c'est les deux tiers des membres de l'Assemblée générale de l'ONU. Ça ne s'est pas fait parce que les Africains ont préféré le statu quo.
Non, pareil,
les Africains sont venus avec la défense d'une contre-proposition qui était antérieure, qui était très excessive. Elle consistait à dire quoi ? Consistait à dire, les deux membres permanents, on serait arrivé à 25 membres, c'était l'idée du G4, avec 6 nouveaux membres permanents et 4 non permanents. Les Africains ont dit, les deux permanents africains ne doivent pas être désignés par l'Assemblée générale, ils doivent être désignés par l'Afrique. C'est quand même un peu compliqué. Deuxièmement, ils ont dit, il faut que ces nouveaux membres permanents aient le droit de veto. Or, tout le monde savait que si on donnait le droit de veto, c'était tuer la réforme. Troisièmement, ils demandaient un poste. Déjà, on leur donnait deux postes, on leur donnait un non-permanent supplémentaire qui les faisait passer de 3 à 4. Ils en demandaient un de plus, un cinquième. Autrement dit, ils ont chargé la barque et ça ne s'est pas fait. Alors, on peut se demander pourquoi. Moi, je constate, en tous les cas, pour répondre à votre question, que la réforme, à l'époque, je leur avais dit, leur donnait un poids beaucoup plus important que celui qu'ils ont aujourd'hui au Conseil de sécurité. Ce qui n'était pas négligeable, alors quand on sait que la moitié du programme de travail du Conseil de sécurité porte sur l'Afrique, au moins. Et ils ne l'ont pas pris. Alors il y a différentes raisons à ça, on peut y revenir, mais moi je regrette en tous les cas qu'à l'époque, ça ne s'est pas fait.
Alors, Alexandre Novoselov.
Oui, je crois que l'une des raisons, sont les rivalités régionales entre pays africains. Ils n'ont pas réussi à désigner les candidats qu'ils soutiendraient entre le Nigeria d'un côté, l'Afrique du Sud, l'Égypte au nom de l'Afrique arabophone. Il y a eu aussi le Sénégal qui s'est déclaré. Donc je crois que c'est l'un des problèmes de l'Afrique, mais c'est aussi le problème de tous les continents. On s'aperçoit, notamment pour ce qui est de la réforme du Conseil de sécurité, que l'un des problèmes, ce sont les rivalités régionales. Le Brésil face à l'Argentine, l'Indonésie, le Japon, etc., la Chine, tout ça, le Pakistan. Donc tout ça conduit, in fine, au statu quo.
Alors finalement, vous évoquiez la date de 2005, Jean-Marc de la Sablière, où le consensus n'a pas été trouvé. Est-ce que si on reposait la question aujourd'hui, les choses auraient en 12 ans avancé?
Non, je ne pense pas que aujourd'hui les conditions soient réunies pour une réforme de la composition du Conseil. Je reste, je l'ai écrit dans l'ouvrage que vous avez cité, Indispensable ONU, je pense que la réforme de la composition du Conseil de sécurité est une réforme qu'il faut absolument faire. Je crois que à terme, si on ne la fait pas, à terme, c'est la crédibilité du Conseil qui sera en jeu. Donc moi, c'est une position que j'ai... Quand j'étais le conseiller du président Chirac, j'avais poussé beaucoup aussi à cette réforme. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Il y a une idée française et britannique qui a émergé en 2009, qui consistait à dire, lançant une réforme en créant une catégorie de membres qui seraient élus pour une durée assez importante, comme le diable est dans les détails, on n'a pas fixé la durée, n'est-ce pas, éventuellement renouvelable, et à la sortie, eh bien, nous verrons ce qui se passe et éventuellement on transformerait ces pays qui ont été élus pour assez longtemps en membres permanents. Autrement dit, il s'agissait de lancer les choses. Ça ne s'est pas fait parce que le G4, qui avait donc eu cette idée de réforme dont j'ai parlé en 2005, s'y est opposé. Je crois aujourd'hui, si vous voulez, que les conditions ne sont pas réunies. Je crois qu'il est important que le dossier reste sur la table. Et je pense que la réforme de la composition du Conseil de sécurité est importante non seulement pour la crédibilité du Conseil, ça veut dire quoi ? Je le dis parce que il me semble que à terme, les grands pays émergents qui auront une influence qui sera pas seulement économique mais une influence politique au-delà, n'est-ce pas, de leur région, au fond accepteront mal de ne pas avoir une place. Je dis une place, je reste assez vague. Une place, si vous voulez, au Conseil de sécurité. Et je pense aussi que quand on parlait de réforme de l'ONU, il faut toujours chercher à réformer l'ONU. Parce qu'on pourrait pas recréer cette organisation. Vous savez, on refait la gouvernance du monde qu'après les grandes crises. Et on peut réformer, on peut améliorer les choses. Et donc je pense que on fait des réformes aux Nations Unies. Quand on parle du HCR, la création du HCR est une réforme, la création du PAM est une réforme, la création des opérations de maintien est une réforme. Mais on serait dans une situation beaucoup plus confortable pour réformer l'ensemble des Nations Unies si on trouvait la solution de la réforme du Conseil de sécurité. Parce que le climat et l'ambiance seraient différents, je pense.
Ce serait un peu la conclusion, Alexandra Novoselov?
Oui, je crois que pour ce faire, il faudra en passer par une recomposition des groupes de pression qui ont émergé depuis 1994. C'est la date où a été créé ce fameux groupe de travail sur la réforme du Conseil de sécurité. Il y a un moment donné, il faudra sans doute abandonner l'idée du G4, abandonner l'idée d'autres groupes de pression pour rebattre un peu les cartes et regarder ce qui se passe dans le monde, le poids des différents États et trouver une solution.
Il y a une certaine urgence, comme disait Jean-Marc de la Sablière, à trouver une solution. Merci. Merci à vous, Alexandra Novoselov. Je rappelle que vous êtes chercheur invité au Centre pour la coopération internationale de l'Université de New York, également chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris 2 Panthéon Assas. C'est que vous avez dirigé l'ouvrage Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance de la collection Biblis des éditions du CNRS. Merci aussi à vous, Jean-Marc de la Sablière, ancien conseiller diplomatique du président Jacques Chirac dans les années 2000-2002 et ancien ambassadeur et représentant de la France au Conseil de sécurité. J'en rappelle les dates entre 2002 et 2007, également enseignant à Sciences Po en charge du séminaire sur le Conseil de sécurité et votre dernier ouvrage, Indispensable ONU, paru dans la collection Tribune du Monde des éditions Plomb. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Victor Hull. À samedi prochain.